Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Pour présenter brièvement Yvan Segré, je dirais simplement qu'il est philosophe et talmudiste, et nous pourrons peut-être aborder à la fin la question de la manière dont cette double pratique joue dans votre écriture tout au long de vos ouvrages. Après, vous me corrigez si je dis quelque chose qui ne va pas. Après les études de philosophie et de lettres, vous êtes parti à Jérusalem étudier le Talmud pendant plusieurs années. En même temps, vous avez écrit une thèse en philosophie soutenue en 2008 sous la direction du regretté Daniel Ben Saïd. Le titre de votre thèse était la réaction philosémite européenne à l'épreuve de l'histoire juive. Et les matériaux de ce travail ont donné lieu à la publication de deux livres simultanément en 2009 aux éditions Ligne. C'est, le premier est intitulé « Kapelton, pensée Auschwitz » et le second « La réaction philosémite ou la trahison des clercs » donc paru en 2009. Suite à cela, en 2014, vous publiez de nouveau deux livres, « Judaïsme et révolution », la Fabrique édition, et « Le manteau de Spinoza pour une éthique hors la loi ». Donc ces deux livres sont là également. Et j'ai découvert votre travail à travers ce livre, « Le judaïsme et révolution ». En 2015, « L'intellectuel compulsif, la réaction philosémite deuxième partie ». Et en 2017, c'est celui-ci, « Les pingouins de l'universel, anti-judaïsme, antisémitisme, anti-sionisme ». Voilà, aux éditions Ligne, les deux. Et puis, cette année, au printemps, vous publiez aux éditions Libertalia ce dernier livre qui nous réunit ce soir. Vous publiez aussi de nombreux articles dans l'hebdomadaire en ligne lundi matin, sur d'autres sites comme Solitude Intangible, et puis récemment des recensions de livres pour une revue qui s'intitule Terrestre. L'une des caractéristiques de votre travail est une puissante relation au texte, à la citation, au montage des citations, ainsi qu'une interprétation fine au ras de la phrase qui accorde une attention singulière à la lettre pour donner à entendre l'esprit des textes étudiés. Nous aurons peut-être le temps de revenir à la fin à ce travail avec les textes. Dans ce dernier livre, La trique, le pétrole et l'opium, de très nombreux ouvrages et auteurs sont cités tout au long, et le livre comporte sept très beaux extraits en exergue, deux pour l'ensemble du livre, deux pour chacune des deux méditations qui le composent, et un dernier pour l'épilogue, et on croise entre autres dans ces exergues aussi bien Lénine que Naguib Mahfouz, Nietzsche ou le Cantique des Cantiques. À la quatrième de couverture de ce livre, on peut lire que vous vous efforcez, à travers vos différents écrits, cela vaut pour tous, à poursuivre la tradition révolutionnaire juive. Mais vous mettiez en relief et en pratique dans tous vos ouvrages une exigence de labeur formel, comme vous l'écrivez à la page 96 de ce livre. Et dans ce labeur formel, plusieurs lignes de force entrent en résonance, aussi bien le rationalisme philosophique classique, Spinoza et Descartes est présent dans ce dernier livre notamment, la dialectique, à la fois celle qui est mise en œuvre dans l'exégèse talmudique et dans la dialectique matérialiste de Marx. Il y a la psychanalyse, notamment la psychanalyse lacanienne, et la philosophie contemporaine, dont de nombreuses pratiques qui questionnent, intègrent et prolongent la pensée lacanienne. Parmi les philosophes contemporains, celui avec qui vous dialoguez souvent est Alain Badiou, notamment dans les versants de son travail qui sont sa doctrine des vérités et la théorie du sujet, de la subjectivation. Mais dans vos livres et dans vos articles, l'on rencontre aussi votre intérêt pour le cinéma et pour le football. Et à ce titre, je souhaite lire la dernière page du livre « Judaïsme et révolution », qui, à travers une méditation sur l'art de la passe et sur la différence dans le football entre le style ouvrier et le style aristocratique du jeu, peut offrir une première ouverture vers votre perspective de travail et vers votre position singulière dans le champ de la philosophie contemporaine. Revenons pour clore au football, cette invention typiquement moderne qui abrite une science perdue. Le football a des règles et sa pratique une histoire. On distingue principalement à l'origine deux styles, l'un ouvrier et collectif, l'autre aristocratique et individuel. Le premier est fondé sur l'art de la passe, le second sur l'exploit décisif, l'action de l'homme providentiel. Sur cette base empirique, spéculons. Il y a deux équipes, les rouges et les blancs, comme il y a deux classes. La règle du jeu est la même pour chacune des deux classes, mais le style de jeu diffère. Et cette différence de style n'est pas une différence de classe, mais la différence entre un indice de classe, style des blancs, et la perte de tout indice de classe, style des rouges. Qu'est-ce donc que l'art de la passe ? Il caractérise le style des rouges, le style ouvrier et populaire. Platon, en une formule fameuse, en a scellé l'idée. Lorsque la plupart, Lorsque la plupart des citoyens disent de la même chose sous le même rapport, ceci est à moi, ceci n'est pas à moi, n'est-ce pas la marque du meilleur gouvernement ? Fin de citation. De l'objet en question, balle ou baguette, on peut dire que son traitement occupe les esprits et que la loi est de faire tourner, car si cela ne tourne pas, cela grince, là où les choses font question. Autrement dit, contraindre la pensée à ne pas instituer un point d'arrêt, à ne pas produire le discours d'une autofondation, n'exige pas de l'assujettir à une lettre. Cela exige un art de la passe, un art souverain du collectif, qui égalise par le haut pour en finir avec l'hégémonie. Un art talmudique, celui-là seul est dialecticien qui pousse la reconnaissance du principe de la contradiction principale jusqu'à celui du devenir principal d'une contradiction secondaire. Bon, peut-être nous reviendrons à la fin à cette pensée à cette présentation de la dialectique qui clôt cet ouvrage. Dans la tricle pétrole et l'opium, Pour ce qui est de votre attitude, vous parlez aussi de l'anarchisme de la raison, à savoir, vous écrivez, d'une sagesse insoumise à la naissance, à l'État et au capital. Et votre art, donc dialectique de pensée et de lecture, en style ouvrier, s'y manifeste dans une singulière vitesse. L'on peut lire aussi à la quatrième de couverture que le livre déploie deux méditations au rythme syncopé, et ce rythme de composition et d'écriture, qui est peut-être aussi celui de la pensée, incite à une lecture galopante du début à la fin, sans lâcher l'ouvrage. À la croisée de la science, de la philosophie et de la science politique, La trique, le pétrole et l'opium est aussi un livre situé au cœur de l'actualité et de ses conflits. Et en effet, ce qui arrive au jour le jour, depuis la sortie de ce livre, rend les pistes qui sont poursuivies plus aiguës encore, plus vives et plus éclairantes. Pourriez-vous nous dire comment a surgi dans votre travail le projet de ce livre-ci ?
En fait, le dernier livre, donc La trique, le pétrole et l'opium, alors juste le passage que vous avez lu à la fin de Judaïsme et Révolution, c'est parler de montage, c'est un montage de reprise de citations quand on en, puisque je reprends une citation, donc je cite Platon, mais avant je reprends aussi des citations du Comité Invisible, de Badiou, et puis aussi sur le foot,
Micha.
Voilà. Pardon. Enfin bref, donc effectivement, la question du montage de citations, c'est important. Alors sur le dernier livre, en fait, c'est d'abord une envie de travailler avec Libertalia, puisque j'en ai parlé, je leur avais parlé, donc d'abord une envie de travailler avec eux, et ensuite on s'est mis d'accord en fait. Le thème très très général qui m'était proposé, c'était la laïcité. Bon, alors c'est devenu, puisque c'est le sous-titre, laïcité, religion et capital, puisque en fait effectivement mon idée étant, très simplement, je le répète, hein, j'étais invité à la fête de l'UMA sur la laïcité aussi, encore une fois. Donc j'explique très simplement que le point de départ, c'est l'idée auquel Libertalia était sensible, qui est de dire que l'opposition laïcité-religion est cet antagonisme, il nous place dans un dispositif réactionnaire. Voilà, ça ma thèse. C'est qu'on est d'emblée dans un dispositif réactionnaire dès lors que l'antagonisme est entre laïcité et religion. Et que pour en sortir, eh ben, il faut être dialectique, très simplement, hein, le schéma est très simple, c'est de reposer l'antagonisme entre une laïcité réactionnaire et une laïcité progressiste, et de la même manière, une religiosité réactionnaire et une religiosité progressiste. Voilà comment on passe d'un dispositif réactionnaire à un dispositif qui va être cette fois progressiste par sa structure. Donc ça, c'était l'idée très générale, et que donc que j'ai déroulé en prenant un biais. Donc en divisant le texte en deux parties, une première partie au fond qui vise à disposer de manière assez, à travers une traversée assez générale, partant de la question de qu'est-ce que c'est que la laïcité en France par rapport à d'autres pays, de prendre conscience de la manière dont dans les pays de tradition monothéiste la religion est inscrite dans les constitutions, et de poser la question après d'introduire la question du capital. Et puis une deuxième partie qui est plus circonscrite, en ce sens où là, c'est prendre l'exemple à son point de la planète qui où il est particulièrement chaud, c'est-à-dire au Moyen-Orient, et là de démontrer que ce que j'ai essayé de le prendre comme un cas d'école, c'est-à-dire montrer les concepts ou le schéma que j'ai pu poser va avérer son efficacité dans un cas d'école qui est celui du Moyen-Orient, où la question alors pour vous résumer peut-être en deux mots, l'idée c'est-à-dire que est intéressant sur la question du Moyen-Orient ou la question de l'islam, puisque vous voyez encore une fois là j'ai vu qu'aujourd'hui il y avait un syndicat enseignant qui a fait une, parce que ça va être les élections des syndicats enseignants, qui ont fait une affiche où on voit donc une femme avec le voile et un enfant, et il y a écrit « J'accompagne les élèves en sortie, et alors ?» Sous-entendu, voilà, le message qui est fait passer par le message de ce syndicat enseignant, c'est de dire « Ben oui, s'il y a des parentes d'élèves qui se proposent bénévolement pour accompagner les élèves en sortie, sachant que l'État, les écoles n'ont pas les moyens d'avoir des accompagnateurs, et ben nous sommes prenants et nous sommes très heureux, et c'est très bien. » Et le ministre de l'Éducation nationale, j'ai oublié le nom, mais ça, qui c'est intéressant, qui a dit voilà, je respecte évidemment ce syndicat enseignant, mais c'est une erreur et je leur demande de corriger. L'erreur étant que c'est une manière de faire de l'électoralisme communautaire. Bon. Vous voyez que cette question-là, elle ressurgit sans cesse. Donc alors, la thèse que je défends en deux mots dans la deuxième partie, ce que j'essaie de montrer, c'est comment on a d'un côté, je prends le cas de la France, un arsenal idéologique et juridique qui vise à pointer les pratiques religieuses d'une catégorie de la population arabo-musulmane qui est très largement prolétarisée en France, alors que de l'autre côté, depuis plus d'un demi-siècle, la diplomatie des démocraties occidentales à l'égard des pétromonarchies est une diplomatie de connivence à l'égard de pétromonarchies qui diffuse dans le monde un islam hyper réactionnaire. Donc c'est ce dispositif-là qui est intéressant et dont il faut montrer que c'est pas contingent, c'est en quelque sorte structurel, et que pour un progressiste, c'est ça qu'il faut avoir en vue, quoi. Voilà. Voilà pour poser un peu les choses. J'ai répondu un peu à... Oui.
Et au début du livre, vous passez en revue toute une série de pays dans le monde où vous montrez finalement que la laïcité telle qu'elle existe en France est finalement fait exception. C'est-à-dire que dans la plupart des en vous lisant, on voit que on découvre, enfin j'ai découvert que dans la plupart de pays européens, d'une manière ou d'une autre, le christianisme, qu'il soit dans sa version protestante, catholique, orthodoxe, est mentionné dans la constitution, etc. Il y a des pays comme les États-Unis, mais vous parlez aussi de l'Union soviétique, où il se construit une sorte de religion de l'État. État lui-même, et puis il y a d'autres configurations aussi à travers le monde, et que finalement aujourd'hui c'est en France que ce dispositif juridique, parce qu'il s'agit d'un dispositif juridique finalement qui est hissé en valeur également, existe, et vous dites aussi. J'ai noté, donc la laïcité française, aussi relative soit-elle, apparaît donc être un îlot d'exception, d'où l'importance d'en garder l'esprit vivant, ça c'est page 41, pardon, c'est-à-dire révolutionnaire, car la laïcité peut être, à la manière du cadavre de Lénine, mise au service de la contre-révolution de l'État. Bon, je reprends ce que vous avez dit, et quelle est la manière que vous proposez justement de sortir de ce cadre réactionnaire qui oppose laïcité et religion pour garder l'esprit vivant dont vous parlez.
Oui, alors juste pour resituer, en fait, je pars d'une remarque de Georges Cormes qui évoque la question du retour du religieux et qui dit qu'il écrit qu'un des symboles centraux de cette refondation donc religieuse s'est tardivement cristallisé autour de l'émergence de l'État d'Israël, véritable icône du retour du religieux. Ça réintervient une deuxième fois dans son livre. C'est ça qui m'a... Le point de départ, c'était quelque sorte, puisque c'est une idée que je prends chez Corme, mais qui réapparaît chez beaucoup d'autres, et donc de resituer les choses et de dire tout simplement que pointer l'État d'Israël comme l'icône d'un retour du religieux, c'est ignorer dans quel monde nous vivons. Parce que, donc je fais un peu un tour des constitutions, et je montre que ce soit en Europe ou en Amérique, sur le continent américain, en Amérique du Sud, les constitutions de pays traditionnellement chrétiens font référence dans leur constitution à la religion chrétienne dans 9 fois sur 10. Et que les pays de tradition musulmane, également plus de 9 fois sur 10, font référence dans leur constitution à la religion musulmane. Et que donc, pointer l'État d'Israël comme une icône du retour du religieux, c'est une tartufferie. Alors à partir de là, ce qui m'intéresse donc, c'est de montrer qu'effectivement il y a une singularité française. Il y a une singularité française qui s'inscrit historiquement dans la Révolution française. Mais qu'effectivement cette tradition révolutionnaire française, encore faut-il bien s'entendre sur ce qu'est la laïcité au sens révolutionnaire, par différence avec une laïcité qui devient, à mon sens, réactionnaire. Alors là, la question, elle est, pour poser les choses de manière très, très simple. Et du reste, je reviens, c'était la semaine dernière, mais par exemple à l'UMA, c'est fou comment le discours républicain laïcard, même le fait de l'UMA, il est majoritaire. C'était assez... Mais tout simplement, c'est que la laïcité, au fond, la laïcité progressiste, c'est la liberté de penser contre le dogme. Si on dit les choses très simplement. C'est ça, la liberté de penser contre le dogme. C'est ça, le ressort révolutionnaire. Donc ça veut dire quoi, la liberté de penser contre le dogme? C'est évident que ça veut dire que l'enseignement professé dans une école, il est laïque. C'est ça qui est fondamental. Mais ça ne veut pas dire que les élèves doivent être laïcs. Et ça ne veut encore moins dire qu'on va contraindre les élèves à adopter tel ou tel... à enlever tel ou tel vêtement, etc. Ça c'est la loi de 2004 est en ce sens-là une... Une manière de détériorer ce que sont les principes de la laïcité. C'est beaucoup plus qu'une extension, c'est une détérioration, puisque c'est plus la liberté de l'enseignement, la liberté de penser qui est en jeu, c'est de juger a priori qu'un vêtement exprimant une position religieuse est incompatible avec la liberté de penser. Donc c'est stigmatisé au sens où c'est ramener le signe religieux à quelque chose qui serait automatiquement contraire à la valeur que je viens d'exposer, qui est celle de la liberté de penser ou du rationalisme. Alors, je pense que c'est une erreur en termes politiques, c'est une erreur aussi en termes sociologiques, c'est également une erreur historique, puisque l'islam a été très longtemps un véhicule de la science et de la rationalité philosophique. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il est évident que cette position-là, donc la cohérence de cette position, c'est ça qui est intéressant, c'est que de la même manière que je suis, je parle en mon nom, opposé à ce qu'on impose à une jeune femme de retirer son voile lorsqu'elle rentre dans une école en France, de la même manière, évidemment, je soutiens les femmes iraniennes qui veulent librement enlever leur voile contre des autorités qui veulent la contraindre. Et de mon point de vue, vous comprenez que la position dogmatique, c'est celle qui va contraindre une femme à enlever son voile ou contraindre une femme à mettre son voile. De mon point de vue, c'est la même chose. C'est pour ça que dans un article que j'ai écrit, qui était paru dans lundi matin, j'avais proposé cette formule, en gros, de dire que le voilement de la chevelure d'une femme n'est ni plus ni moins sexiste que son dévoilement. Parce qu'au fond, la position me semble féministe, c'est tout simplement qu'une femme s'habille comme elle l'entend. Donc si elle veut recouvrir sa chevelure, elle la recouvre, et si elle veut la découvrir, elle la découvre. Et qu'il me semble que la position qui devrait être celle d'un principe laïque, il me semble que c'est celle-là. Voilà.
Il y a un point intéressant dans votre livre, parce que finalement, on tombe sur l'enjeu intéressant qui est celui des corps des femmes. C'est-à-dire que aussi bien la laïcité que la religion semble trouver dans ce sujet quelque chose de particulièrement, dans l'opposition réactionnaire, dans la configuration réactionnaire, quelque chose de particulièrement excitant, on va dire, et l'objet de diverses préoccupations. Et dans le livre, j'ai pas indiqué la page. À un moment donné, vous citez le philosophe Pena Ruiz, qui a créé une grande discussion récemment aussi au sujet d'une conférence d'ailleurs prononcée à Toulouse. Vous citez Henri Pena Ruiz au sujet du voile, qui est pour lui le signe de la subordination, de tout un système de la subordination des femmes. Évidemment, la question qui se pose est celle de savoir si les femmes peuvent librement choisir de porter le voile, voire la question de savoir si les femmes sont pourvues d'un libre arbitre. Pour utiliser je pense même qu'il utilise ces mots. Et c'est pas lui qui pose la question, c'est moi qui me suis posé la question en lisant cette citation de Pena Ruiz que vous présentez dans le livre. Et vous, par la suite, vous faites un montage avec un extrait de Mona Chollet. Où il est question de la chirurgie esthétique et de l'intervention sur le corps, là encore, des femmes qui font appel à la chirurgie esthétique pour transformer leur corps et qui jouent ainsi dans le sens d'une marchandisation du corps. Et là aussi, la question, c'est comme si, en quelque sorte, ce passage de Mona Chollet surenchérissait sur de nouveau sur la question, mais ces femmes là qui payent les interventions de chirurgie esthétique le font-elles librement? Alors j'aimerais juste que peut-être vous en disiez quelque chose.
Alors, c'est effectivement, je prends un texte de Pena Ruiz qui est écrit en 2003 et donc qui produit l'argumentation qui va finalement être celle du législateur en 2004, où son argument, c'est de dire en interdisant le voile, on libère ces femmes qui sont opprimées par un système idéologique et social oppressif, et que donc il faut interdire le voile pour leur donner la possibilité de penser. Donc c'est une position que je critique, et je cite le texte effectivement de Mona Chollet, où Mona Chollet évoque la question des prothèses mammaires qui se sont avérées être d'une mauvaise qualité et qui donc ont infecté des femmes, avec même des chirurgiens, se mêle la question d'une marchandisation avec son côté prédateur, et donc elle évoque cette question-là, et effectivement, donc je renvoie la balle à Pena Ruiz en disant on peut aussi. Il est évident que toute pratique sociale s'inscrit dans un contexte, et que de la manière qu'une femme qui met son voile, ça s'inscrit dans un certain contexte, de la manière aussi une femme qui décide de recourir à la prothèse mammaire, ça s'inscrit également dans un contexte social avec le type de pression psychologique, sociale sur la question des corps des femmes, etc. Pour conclure, je me souviens bien que à tout prendre, il est plus facile pour une femme iranienne d'enlever son voile que pour une occidentale de retirer elle-même sa prothèse mammaire. C'est un fait. Donc c'est pour dire qu'effectivement les formes d'oppression sur les femmes ne sont pas exclusivement religieuses, elles existent bien sûr, elles sont aussi de l'ordre de la marchandisation du corps. Et que donc c'est pour dialectiser et sortir et sortir, vous voyez, de ce, du reste, quand j'étais invité à l'UMA, au départ, ça devait être avec Pénard Ruiz qu'on devait faire le débat. Finalement, il s'est décommandé. Bref. C'est pour sortir de ce schéma qui, je pense, est réactionnaire de l'opposition laïcité-religion et pour redialectiser ça d'un point de vue progressiste. C'est un peu la démarche que je fais. Alors, ce qui ne veut pas dire, que on pourrait envisager une situation. C'est comme la question aussi de la discrimination positive. On pourrait envisager une situation sociale dans laquelle il y ait des jeunes filles qui soient contraintes par un contexte de suivre une telle pratique et que l'école, dans ce cas particulier, décide de modifier la laïcité et d'interdire cette pratique pour faire contrepoids. Il ne faut pas être dogmatique, on pourrait envisager des cas comme ça. Mais il me semble que depuis 15 ans en France, c'est absolument pas ça la question. C'est absolument pas ça la question. Et que donc ce qui est en jeu, à mon sens, c'est au fond quelque chose qui est de l'ordre d'un fantasme xénophobe. En fait, c'est ça qui se concentre autour de du reste de Pénard Ruiz, qui l'a dit, c'est un truc comme ça, c'est qu'on a le droit d'être islamophobe. Ce qui veut dire littéralement, hein, ce qui veut dire on a le droit d'être malade. Mais c'est vrai, on a le droit d'être malade. Parce qu'une phobie, c'est une maladie. Mais on a le droit de se soigner aussi, à la limite.
Je pense qu'on va certainement, enfin, peut-être qu'on reviendra à ce point lors de la discussion avec vous. J'aimerais lire un autre, enfin, j'ai pas encore lu, je n'ai lu encore aucun passage de ce livre, et j'aimerais lire un passage qui a été, pardon. C'est un passage où il est question de l'aéroport d'Istanbul, qui est je trouve un très beau passage, qu'on a d'ailleurs pu lire dans lundi matin aussi, dans la présentation de votre livre. Pardon, ça fait une page, page 60. Voyageant régulièrement à Tel Aviv, j'emprunte les lignes à moindre coût, ce qui me conduit souvent à l'aéroport d'Istanbul. Extraordinaire point de rencontre entre des hommes et des femmes de tous les horizons, en partance pour Tel Aviv, Bagdad, Dubaï, Delhi, Pékin, Tokyo, Nairobi, Dakar, Moscou, New York ou Rio. Déambulant dans le marché duty-free de l'aéroport, dans ses magasins et restaurants, on y croise une femme vêtue de la burqa afghane, une autre vêtue de la mini-jupe occidentale, un salafiste en barbe et djellaba se dirigeant vers la mosquée de l'aéroport, comme un touriste anglo-saxon sirotant une bière devant un écran de télévision, ou encore un Irakien à gare, une Africaine à la longue robe brodée de couleurs vives, un homme d'affaires chinois tapotant sur son ordinateur, des juifs orthodoxes se réunissant pour une prière, ou un magicien sikh enchantant les lieux. Bref, on croise le monde entier lorsqu'on transite par Istanbul. Et cela se passe merveilleusement bien. On est sinon souriant, pacifique. Ici, ou bien tu as de l'argent et tu dépenses, ou bien tu prends un livre et tu lis, ou bien tu enlèves tes chaussures, tu te mets à l'aise et tu dors. La coexistence dans un espace réduit et transitoire de toutes les ethnies et religions du monde ne posant pas le moindre problème. Absurde, il serait une législation contraignant les femmes à recouvrir leur chevelure ou à la découvrir avant de pénétrer dans le temple duty-free. Et à cette lumière, la seule philosophie laïque du vivre ensemble, qui paraît avoir fait ses preuves, c'est donc celle du marché, où la liberté d'acheter et de vendre est égale pour tous, l'argent n'ayant ni odeur, ni ethnie, ni confession. Déambulant dans les boutiques, les restaurants, je songe au vers de l'un des premiers poètes espagnols du Nouveau Monde, entre guillemets, Bernardo de Balbuena. je cite ce poète, « Qui a jamais connu de mauvais jours quand il a de quoi dépenser ? Qui, avec de l'argent, a jamais rencontré obstacle à son plaisir ? N'est-il pas juste que celui qui jouit de ce monde ait oublié qu'il en existe un autre ?» Donc cet aéroport d'Istanbul se présente à mes yeux dans votre livre comme une métonymie du capital, c'est-à-dire le troisième terme dans le sous-titre qui est sur la laïcité, la religion et le capital. Et j'aurais aimé poser la question, est-ce que, à l'instar de la laïcité et de la religion, le capital se divise aussi en deux pôles ? Est-ce que le capital est-il dialectisable ? Après tout, Marx voyait une part révolutionnaire du capital lui-même dans le manifeste, Marx et Engels, dans les manifestes du Parti communiste.
Oui, alors ça c'est une bonne question. Bon, alors chez Marx, il est clair que la bourgeoisie révolutionnaire, en tant qu'elle elle détruit la société féodale. Mais donc effectivement, donc dès lors, cette formule de Engels, que après tout, le bourgeois moderne est préférable au seigneur féodal aussi. Effectivement, c'est quelque chose qui reste très pertinent. Alors, il y a une formule aussi de Braudel que j'aime beaucoup, que je cite, je ne sais pas si je vais la retrouver, où il dit que avec le mouvement de la marchandisation est aussi a été historiquement est aussi ce qui favorise les échanges, ce qui met en mouvement l'immobilisme des sociétés d'ancien régime. Et en ce sens-là, oui, bien sûr que ce qui me frappe, enfin, ce passage-là, c'est de montrer au fond comment, quand même, de se poser la question, qu'est-ce qui fait que un duty free comme celui-là peut être cet espace de, comment dire, de rencontre, de mixité du monde entier, religieux, pas religieux, ceci, cela, et que dans une école en France un signe religieux pose problème. Faut s'interroger. C'est donc il est sûr que je dirais que oui, il y a une dimension du capitalisme qui devient progressiste dès lors qu'il est l'adversaire de quelque chose qui est plus réactionnaire. C'est toujours ça. C'est pour ça qu'il faut être toujours en mouvement, parce que c'est toujours cet enjeu-là. Et donc, en ce sens-là, oui, il y a une réussite en ce sens-là du capitalisme. Mais la phrase sur laquelle j'enchaîne aussitôt, lorsque je cite ce poète qui parle de « on oublie qu'il y aurait un autre monde », lui fait référence à l'autre monde de la religion, qui est donc celui du jugement dernier. Et donc on a de l'argent, on vit, on dépense et on profite de ce monde sans se soucier de l'autre monde. Moi, je rebondis là-dessus, et l'autre monde qu'on oublie dans le duty free, c'est celui de la production. C'est-à-dire que les gens qui produisent ces biens qui sont achetés dans les duty free. Et donc là, je parle d'un livre d'un journaliste qui s'appelle les minerais de sang. Et donc, voilà, donc on rebascule après sur la question de ce en quoi le capital peut être également un seigneur féodal, encore beaucoup plus féodal, si je puis dire, que le seigneur féodal lui-même. Donc c'est pour ça que tout est nécessairement en mouvement. Mais cela dit, du passage que vous avez cité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison, il n'y a aucun déterminisme qui conduirait les religions à être conflictuelles. Voilà. Et un livre de Elie Barnaby, l'historien, qui s'appelle « Les religions meurtrières », ben je ne suis pas du tout d'accord avec sa lecture. Ce ne sont pas les religions qui sont meurtrières en tant que telles, ce sont toujours des logiques sociales qui vont être ensuite réinvesties par le religieux.
Et que pensez-vous de un de ces fragments énigmatiques de Walter Benjamin qui pose que le capitalisme est une religion qui ne connaît qu'un perpétuel culte culpabilisant, donc une religion sans dogme et sans aucune possibilité de rédemption. Et dans certains moments de votre livre, le regard que vous portez sur le capitalisme peut prêter aussi à une telle lecture qu'il s'agisse d'un culte.
Oui, tout dépend comment on va définir ce qu'est la religion, comment on va définir ce qu'est le capitalisme. Donc je serais tenté de dire que Benjamin, ce qu'il vise, à mon sens, lorsqu'il dit ça, c'est une idolâtrie. C'est ça le point. C'est une idolâtrie. Parce que... donc c'est un peu différent. Voilà. C'est un peu différent parce que les religions ont des traditions textuelles, métaphysiques, depuis le monothéisme jusqu'au bouddhisme, etc. Donc, qui ne sont pas... Donc en ce sens-là, je ne dirais pas que le capitalisme est une religion. Mais je dirais que ce que vise Benjamin, c'est plus un culte idolâtre.
Il y a une autre ligne de force dans le livre qui est liée à la question du capital. C'est la question de l'empire. Et c'est une question que l'on trouve dans d'autres travaux. Et une critique de l'impérialisme. Pensez-vous que le capitalisme contemporain rend de nouveau actuelle la critique de l'impérialisme telle qu'elle a pu être menée dans la pensée révolutionnaire autour de la Première Guerre mondiale chez Lénine ou Rosa Luxembourg?
Oui et non, c'est-à-dire, encore une fois, c'est comment on va définir. L'impérialisme, bon, dans le texte de Lénine, il y a une définition un peu plus resserrée, mais disons que on peut s'entendre sur le fait que les relations internationales dans l'histoire, elles sont principalement le théâtre de rapports de force. Sont principalement au théâtre de rapports de force et que avec l'émergence du capitalisme, ces rapports de force vont être structurés par les logiques qui sont celles du capital. Et que ça, c'est une donnée de l'histoire des relations internationales. Et qu'en ce sens-là, est-ce que les choses évoluent? Est-ce que, par exemple, la première guerre du Golfe, elle a été validée par les Nations Unies? Donc, juridiquement, elle était formalisée comme étant une opération du droit international et non pas un impérialisme. Mais en même temps, tout le monde sait très bien que comme disait Pascal, c'est n'ayant pu faire que ce qui fut juste fut fort, on a fait que ce qui fut fort fut juste. Tout le monde sait très bien que les raisons de des interventions occidentales dans le Golfe, c'est de sécuriser les puits de pétrole, pour le dire en un mot. Donc, est-ce que comment penser l'émergence de quelque chose d'autre, ou comment faire en sorte que cet impérialisme soit... Comme vous savez, jusqu'en 89, c'était l'équilibre entre les deux superpuissances qui faisait que chacun avait son espace. Il me semble que aujourd'hui, on est l'évolution du monde, c'est qu'on voit des puissances, ce qu'on appelle les puissances émergentes économiques, donc depuis la Chine jusqu'au Brésil. Contrebalancer la superpuissance américaine, et que si vous regardez en termes de budget militaire, hein, je crois que le budget des Américains, c'est 45 fois celui de la Chine. Donc ça montre bien que pour les Américains, à terme, c'est la force militaire qui permet de garantir l'ordre international. Alors après, on peut débattre, est-ce que sans la superpuissance américaine, ça serait pire ou pas? C'est une question, parce qu'encore une fois, faut pas non plus se voiler la face. C'est-à-dire que beaucoup de ceux qui sont en quelque sorte castrés par les Américains, s'ils ne l'étaient pas, ce qu'ils feraient serait sans doute pas tellement mieux. Donc ce sont de vastes questions, mais ce qui est sûr, c'est que oui, ces structures-là, elles sont toujours dominantes, et que effectivement, par exemple, très clairement, pour articuler les deux points, c'est que il est tout à fait évident que là on parlait de l'islam, du voile, mais il faut savoir à quel point la diplomatie française ou américaine, puisqu'on parle de la France, elle est main dans la main avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Donc c'est tout de même très paradoxal, puisque ces gens-là, par ailleurs, on sait, financent les orientations, influencent par leur dollar, leur argent, les orientations les plus réactionnaires dans l'islam. Plus réactionnaires. Et encore une fois, l'islam n'a pas du tout vocation à prendre la tournure qu'il prend en Arabie Saoudite, etc. S'il n'y avait pas eu le pétrole, dire le wahhabisme, ça aurait été un truc complètement anecdotique dans l'histoire. Complètement anecdotique. Donc, les puissances occidentales se sont appuyées sur les forces. D'abord, ça a été les Anglais avant qu'on découvre le pétrole, et puis ensuite, avant même la fin de la guerre, en 1945, Roosevelt et Ibn Saoud scellent leur alliance. Et que il est évident que le deal, en quelque sorte, c'est que les Américains assurent, enfin, quand je dis les Américains, c'est les Américains et puis les démocraties occidentales, assurent à ces réactionnaires le pouvoir sur la Mecque. Donc, ils ont le pétrole et la Mecque. Donc, vous vous rendez compte, en termes de... c'est eux qui vont construire cet islam hyper-réactionnaire. Et donc, après qu'on fasse tout le discours sur... quand on voit, de mon point de vue, voir les parlementaires français aller faire des lois sur... et voir le ministre de l'Éducation nationale qui dit qu'une accompagnatrice qui met le voile... Enfin, c'est une tartufferie gigantesque. Alors la question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces alliances-là ? Ah, pour une raison très simple. C'est que les archi-réactionnaires qui vont faire le jeu les féodaux de l'Occident s'allient avec les féodaux de l'Islam, puisqu'ils vont faire le jeu des puissances capitalistes au sens le plus oppresseur. Grosso modo, tout l'argent des pétrodollars ne vont pas être investi pour la majorité. Vous savez que le Moyen-Orient est la région la plus inégalitaire de la planète. C'est la structure. Et tous leurs milliards de pétrodollars vont être investis dans les centres financiers occidentaux. Donc tout ça, c'est un système qui, effectivement, alors là... une sorte de cas d'école de ce qu'est l'impérialisme après-guerre.
Merci, j'avais deux questions encore. Il faut que je choisisse parce que méditation est intitulée la désidentification et il y est question du pétrole et de la nécessité d'une interprétation matérialiste des conflits contemporains et c'est un point qui me semble extrêmement intéressant, mais je laisse peut-être pour la fin. Et juste un autre point, je vais lire un extrait de votre livre, page 89, vous écrivez « Faisons l'hypothèse que la jouissance féminine est le ressort à la fois rationnel et mystique d'une praxis révolutionnaire. Autrement dit, faisons l'hypothèse d'un lien secret entre la structuration inégalitaire et prédatrice de l'échange marchand sous condition du capital et la jouissance masculine phallique. Comme si, au fond, pudibonderie patriarcale et pornographie libérale faisaient cause commune. Alliance d'un fantasme d'absolu, la trique, et d'un risible réel, l'opium, dont la jouissance féminine serait l'antidote. Donc si vous pouvez, juste pour clore cette première partie, nous parler un peu de cette question de l'antidote qui se présente ici sous ce concept de la jouissance féminine. Mais il y a aussi un autre antidote dans le livre qui parcourt tout le livre, qui est celui d'une pensée par multiplicité générique avec un exemple de ces multiplicités génériques qui est donnée dans la chanson du groupe punk Berrurier Noir, la chanson de 1985, Salut à toi. Donc il y a dans le livre cette ligne, que je dirais une ligne émancipatrice entre cette chanson, la question des femmes, et puis aussi je pense Descartes, mais on peut le laisser de côté. Donc
je prends ça d'un texte de Zizek que je cite plus loin, où il oppose jouissance féminine et jouissance masculine à travers les formules de la sexuation chez Lacan. Donc je prends ça chez lui et je l'importe dans mon texte. Alors juste pour vous dire quelque chose, pour répondre à votre question, peut-être vous expliquer un peu le truc dont je suis assez content. C'est qu'effectivement, Badiou, dans sa métaphysique, sa philosophie, a beaucoup travaillé sur les mathématiques contemporaines. Notamment, il emprunte un mathématicien qui s'appelle Paul Cohen la question des ensembles génériques, qui est, à mon sens, personnellement, chez Badiou, plus davantage encore que la notion de l'événement, c'est la notion du générique qui me paraît être ce qui est le plus fructueux, ce qui m'intéresse le plus. Bon. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que, bon, c'est une notion assez... mathématiques contemporaines, c'est un peu complexe, mais pour moi qui suis pas mathématicien, c'est complexe, du moins. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que, donc, le générique est également, chez Badiou, lié au féminin, pour une raison qui reste un peu mystérieuse, sous sa plume. Et ce qui m'a intéressé, c'était de montrer que l'ensemble générique, on avait un cas d'école d'ensemble générique dans la chanson des Berruriers Noirs, Salut à toi. Et chanson qui commence par Salut à toi, ô mon frère, et ensuite qui déroule. Et pourquoi? Parce que la notion de générique, au fond, c'est que vous avez une série d'éléments qui forment un ensemble, mais dont vous ne pouvez pas regrouper tous ces éléments sous un seul prédicat qui en donnerait l'unité conceptuelle. Donc dans l'exemple de la chanson des Berruriers Noirs, par exemple, si on n'avait que le déroulé de Sénégalais, Maliens, toutes les nations que vous voulez, alors oui, on n'aurait pas un ensemble générique, puisqu'on aurait un ensemble de nations. Ce qui est intéressant, c'est que justement, dans leur chanson, il y a sans cesse des singularités. Que ce soit la jolie allemande, que ce soit les filles du Crazy Horse, que ce soit ensuite le dromadaire, le tonton Albert, etc. Et donc je montre comment on peut comprendre que la chanson « Salut à toi » des Berruriers Noirs, sa force conceptuelle, c'est qu'au fond, c'est un ensemble générique. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'évidemment, c'est une chanson qui a quelque chose, on pourrait dire, le « Salut à toi, mon frère » de masculin, mais qui, du fait qu'elle est générique, se rattache en ce sens-là à la question du féminin, qui est donc du côté du générique chez Badiou. Donc ça, c'est pour la chanson des Berruriers Noirs, sur laquelle je termine la première partie. Et ensuite, intervient le texte de Zizek, qui me permet de relancer la question de la jouissance humaine à partir du texte de Zizek sur les formules de la sexuation chez Lacan. Je ne sais pas si j'ai été clair. Peut-être après...
Peut-être non, je vais garder ma. Peut-être juste si vous pouvez dire quelques mots sur la façon dont vous travaillez le texte, la citation, comment les choses reviennent, sont relancées, etc.
Moi, j'écris.
Oui.
Thank you. C'est difficile parce qu'au fond, il y a des choses qui sont assez inconscientes. Maintenant, disons que c'est vrai que, bon, certainement par ma formation talmudique, l'idée qu'un texte soit composé de voix différentes, qui s'entremêlent, dialoguent, s'entrecoupent, se contredisent ou se confortent, qui est une sorte de plurivocité, est un peu un élément qu'on retrouve tout le temps. Et je dirais aussi que l'autre influence forte, c'est que on me dit souvent que mes textes peuvent être contre. Oui, contre Finkielkraut, contre les réactions philosémites, c'est un certain nombre d'idéologues dont je démonte les textes. Donc d'avoir une sorte d'adversaire comme ça. Et ça, par différence avec quelqu'un qui exposerait sa pensée indépendamment de gens qui veulent critiquer, mais simplement une pensée qui serait dans une pleine affirmation d'elle-même, sans avoir besoin d'avoir des gens auxquels on s'oppose. Et j'entends très bien, hein, mais ce fonctionnement, alors moi ce que ça m'évoque tout de suite, hein, donc mon fonctionnement, c'est les textes de Marx et Engels, quoi, ouais, tout le long. Le dernier texte, chef-d'œuvre d'Engels, c'est l'anti-During. Quoi. Bon voilà, donc ce sont des références moi qui m'accompagnent, et donc cet humour, cette manière de sans cesse de Marx et Engels ont avancé leurs affirmations à travers la critique serrée et jouissive et ludique et corrosive et parfois même méchante d'adversaires, quoi. Donc voilà, je dirais qu'il y a ces deux influences, la question le Talmud, la plurivocité, et puis le côté critique de Marx et Engels. Bah, je pense que c'est ça qui est déterminant.
Bah, du coup, je vais rebondir sur un des éléments que vous avez dit. Concernant la plurivocité, du coup, est-ce que, justement, on peut entendre dans votre livre, et en tout cas, est-ce que irrigue votre pensée la voix des femmes ? Et s'agissant d'exemples que vous prenez, notamment la voix peut-être de femmes arabes ou de féministes arabes, qui ont peut-être aussi des choses à dire, un peu qui divergent, monsieur Pénarruiz ? Première question. Donc, est-ce que dans cette plurivocité, il y a du féminin, si on devrait reprendre ce binarisme que vous mobilisez. Deuxième chose, votre approche, en effet, de la question du voilement, on voit bien, c'est une grille qui mobilise la grille d'analyse raciste, vous l'avez soulevé, vous avez fait un petit procès à M. Pénarruiz, je ne connais pas cette personne.
Xénophobe,
voilà, c'est ça. Et donc, mais du coup, peut-être pourrions-nous aussi, dans une perspective intersectionnelle, mobiliser d'autres grilles de lecture, qui sont celles, par exemple, du système sexe-genre, que certaines appellent sexage, pour Colette Guillemin, par exemple, qu'on vous invite à découvrir, qui nomme par ce terme l'appropriation des femmes par les hommes, ou du système mâle, comme dirait Françoise Daubonne, et il y a d'autres grilles de lecture. Et à l'endroit du corps. Vous avez défini, donc, dans une perspective d'une laïcité révolutionnaire, vous avez dit, donc, c'est la liberté de penser contre le dogme. Est-ce bien ça ?
Oui, la oui. Liberté de penser, effectivement, et donc s'affranchir du dogme.
Dans une perspective aussi critique, puisque vous mobilisez aussi Marx comme corpus, peut-on envisager la liberté comme une hétéronomie sans servitude? Et donc là, auquel cas, s'agissant du corps des femmes, la question que vous mobilisez du choix des femmes à se soumettre au voilement et de toute une société à tolérer ce voilement, peut-il être vécu justement comme une forme de choix sans servitude? Parce que, en tout cas, dans le cas de la France, il y aurait une liberté de choix que permettrait la laïcité, mais une hétéronomie, qui est à dire que les femmes sont définies dans leur comportement, dans leurs normes, dans leur dogme, le dogme patriarcal avant même d'être le dogme religieux. Et là on confère à la question que vous avez aussi travaillé sur la question de la subjectivité, un livre récent de Manon Garcia, on ne naît pas soumise, on le devient. La question de la tolérance et du consentement à la soumission des femmes en tant que subjectivité travaillée dans une société patriarcale. La soumission à certains dogmes en tant que, justement, stratégie de survie. Donc, en fait, là-dedans, il se déplie une très grande complexité qui me semble échappe, enfin, que je ne sens pas en tout cas dans votre exposé, mais peut-être que c'est parce que je n'ai pas lu le livre encore. Et donc, de fait, je remets en cause l'adjectif que vous collez à laïcité, c'est-à-dire le mot révolutionnaire, ou sinon c'est la critique à la révolution que fait Françoise Dobon en tant que il n'y a aucun enjeu de transformation sociale là-dedans. Dans une liberté de pensée contre le dogme, si la liberté ça reste une hétéronomie sans servitude, ce n'est pas une voie émancipatrice. Donc je mobilise le concept de Françoise Dobon à travers un livre qui vient de sortir aujourd'hui qui s'appelle l'écoféminisme, Françoise Dobon et l'écoféminisme, la mutation. S'agissant que, comme elle dit, l'esprit de révolution a suivi l'esprit de réforme, l'esprit de mutation doit remplacer l'esprit de révolution. Parce que la révolution, c'est qu'on part d'un point, on fait un petit tour, les mal dominés prennent la place des mal dominants et tout recommence. Il y a eu beaucoup de révolutions dans l'histoire et en fait, personne n'a déconstruit les fondamentaux qui sont les bases patriarcales de la société. Et voilà, donc peut-être en effet des questionnements sur ça. Vous choisissez le fil que vous souhaitez prendre, évidemment. Il n'y a pas d'injonction à telle ou telle question.
Alors d'abord, il est clair que mon propos est limité. Première chose, il est limité. Il est circonscrit, il est limité. Donc il est évident que beaucoup de problématiques fondamentales, de concepts fondamentaux, de grilles de lecture fondamentales sont absentes de ce livre et de mes travaux. C'est la première chose. La deuxième que je voudrais dire, sans pouvoir répondre à toutes vos questions, mais que je voudrais dire, c'est que si j'ai bien compris, c'est qu'il est évident que une société patriarcale, ça n'est pas, à mon sens, en enlevant le voile ou en le mettant, que ça se joue. Ça se joue pas là. Et alors, j'ai pris le train de Paris, j'ai lu dans le train un livre extraordinaire d'une pianiste chinoise. Maintenant, je crois qu'elle est, je sais pas si elle vit en France ou aux États-Unis, et qui a donc, qui est née en 49. Et qui a vécu la révolution culturelle, qui a été dans les camps parce que la musique classique c'était bourgeois, etc. Donc elle raconte son expérience en Chine. La Chine populaire à une période donc maoïste où pour une pianiste qui aime la musique classique, bon, elle en a vu de toutes les couleurs. Et ensuite elle va aux États-Unis. Et alors, ce qui est très intéressant dans son livre, c'est que justement elle n'est pas dans les États-Unis, c'est extraordinaire, c'est la liberté. Elle est aussi dans un regard critique. Et donc, c'est pour dire que c'est volontairement complètement décalé par rapport à vos problématiques, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez comment dans chaque monde, il faut pouvoir repérer les formes d'oppression. Et que donc, il n'y a jamais un... Voilà, c'est ce mouvement-là qui est très fort dans ce livre. Et je ne sais pas si ça répond, mais c'est la réponse qui me vient, quoi. J'ai répondu quand même un peu.
Et s'agissant de la survivocité.
Ah oui, sur les... Oui, alors... Oui. Ouais, je cite des livres de féministes islamiques. Je crois que je cite dans ce livre, j'en cite dans d'autres. Maintenant, je ne suis pas arabisant. Et donc, je suis dépendant de ce qui est en français. Et il y a assez peu de choses. Donc, le peu de choses, me semble que je le connais, plus ou moins. Mais voilà, n'étant pas arabisant, je ne peux pas...
Et donc, vous citez des féministes islamiques et non pas des féministes athées.
Alors, si... Non, bah si, je suis pas sectaire. Je suis pas sectaire, donc je cite, je suis pas sectaire. Alors après, par contre, je suis limité. Voilà. Donc, par exemple, les références que vous avez évoquées, je note, je connais pas.
Ça vous donne envie de les lire?
Bah bien, bien sûr. Ah ben, je me suis senti tout bête.
Oui, quand vous avez beaucoup de références, vous avez écrit beaucoup de livres, et il y a des mots très intellectuels qui sont prononcés dans votre présentation d'une part et ce que vous avez énoncé vous d'autre part. Mais pourtant, moi je vois une pensée qui est extrêmement consensuelle. Vous avez mis en avant la fameuse pensée relativiste qui est très très commune de nos jours. Et il y a quand même quelque chose qui ne vous obsède pas, qui est la valeur. Qu'est-ce que la valeur de la religion? Qu'est-ce que la valeur du voile? C'est-à-dire que beaucoup de femmes, notamment des féministes arabes, rappellent que les religions sont des idéologies, contrairement à ce que vous énoncez. Et donc sur ces fameuses féministes, en fait, hein, qui sont des femmes qui se battent pour leur dignité, elles ne cessent que de vouloir mettre l'attention sur la valeur du voile, parce que si le sexisme s'exprime de moult façons à travers l'histoire ou à travers la géographie actuelle, il est bien évident qu'on ne peut pas remettre en question certains vêtements qui ne peuvent être que sexistes. Pourquoi ? Puisqu'en fait, la question n'est pas le choix ou le non-choix d'une femme en patriarcie, hein, puisque la question, c'est quand même l'injonction. D'où vient-elle ? La question, le référent absent de votre discours, totalement absent, c'est bien sûr les voileurs. Et à une mauvaise question, une mauvaise réponse, les féministes du monde arabe ne cessent de dire « La question est pourquoi les hommes ne se voilent pas ?» Pourquoi les hommes ne se voilent pas ? Et la valeur du voile, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le voile dit l'infériorité des femmes sur les hommes. Et vous osez poser un relativisme ? Donc, c'est quand même extrêmement grave. Alors, je pense que oui, vous êtes un tartuffe qui procédait par enquillement de sophisme.
J'essaie d'attraper une question. Mais j'ai envie de vous dire très simplement que j'ai pas le même... j'ai pas du tout la même expérience que vous sur ces questions-là. Moi, j'ai été marié avec une femme qui se couvrait la tête. Je connais des femmes qui se couvrent la tête. Je connais. Vous dites c'est sexiste, mais encore une fois, vous avez le droit de le penser. Moi, la position que j'ai, elle est simple. C'est que je dis une femme qui n'a pas envie de se voiler, qui a envie d'être en mini-jupe, qu'elle soit en mini-jupe. Une femme qui a envie de mettre une robe longue et de couvrir ses cheveux, qu'elle couvre et qu'on les laisse tranquilles. Donc vous me dites, il faut mettre une valeur là-dessus. Mais je pense que vous avez une position ex cathedra. C'est-à-dire que vous montez sur un trône et vous dites, voilà, ça c'est comme ça. Moi, je crois pas, non. Je pense pas que le voile soit sexiste. Je pense qu'il y a des rapports de force, une société sexiste. Ça, oui. Mais dire que le voile est sexiste, je pense que c'est une erreur. Après, on peut me dire, dans certains contextes, etc., qu'il y a une histoire. Mais encore une fois, c'est pareil, je pense que...
Voilez-vous, parce que j'ai un émoi, voilà, je suis excitée par vous, il faudrait que vous vous voiliez, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir le contenir.
Mais non, mais vous voyez la différence, c'est que là, ça serait oppressif, parce que c'est vous qui venez de me demander de me voiler. Alors oui, ça, c'est une configuration oppressive. On est d'accord là-dessus, c'est pour ça que j'ai bien dit. Il me semble, mais encore une fois, non, mais encore une fois, je reviens sur la position que j'ai dit.
Vous allez vous agresser sexuellement tellement.
Vous vous rendez compte combien vous êtes ridicule.
C'est pas grave.
Infâme.
C'est pas grave, non, c'est pas infâme. On discute, on s'exprime. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Exprimez-vous, non, vous êtes les bienvenus. On discute. Juste, j'essaie de clarifier ma pensée, qu'on se comprenne au moins. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez peut-être raison, j'essaie simplement d'exposer ce que je comprends. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il me semble que la position d'oppression, c'est de dire à une femme, voile-toi, comme c'est de dire à une femme, dévoile-toi. C'est ça que j'essaie de dire. Donc il me semble, c'est pour ça que j'ai dit que la logique, c'est qu'évidemment, je suis avec les Iraniennes qui enlèvent leur voile devant les mollahs qui les contraignent. Mais il me semble que c'est une position de mollah aussi de dire à une femme, voilà, tu te dévoiles. C'est ça l'oppression, me semble-t-il. Après, interpréter un vêtement et dire ça, ce vêtement, il exprime ceci ou cela, non. Ça, c'est...
Le choix de l'étoile jaune, oui. Ouais.
Mais c'est imposé. Vous comprenez? C'est ça l'oppression, c'est d'imposer.
Historiquement, vous voulez qu'on décortique? Ils ne voulaient pas la mettre, ils l'ont mis pour acheter leur paix sociale. Ça vous rappelle rien sur le voilement?
Non, je suis pas le... Mm-hmm. Ben non.
Ben si.
Encore une fois, si ce que vous, que vous ayez une position sur dire qu'effectivement, dans des pays, en Iran, que des femmes sont contraintes de se voiler du fait de la pression sociale, etc., je comprends très bien ça. Je comprends. Il me semble qu'il y a d'autres configurations, d'autres cas, et que, bon, vous voyez, tout ça convoque un peu, enfin, je suis assez content, parce que c'est des choses que j'ai posées auparavant, puisque ça convoque la question, effectivement, de lire les formes d'oppression, aussi bien celles que vous évoquez, mais aussi les autres, les formes d'oppression marchande dont on a parlé, parler aussi du fait que le voile que vous avez, à mon sens, à l'esprit, si vous l'avez à l'esprit de cette manière-là, je pense que c'est dû à la séquence historique dont j'ai parlé et au fait que vous êtes confronté à des formes historiques de l'islam qui sont hyper réactionnaires en raison des structures que j'ai évoquées. Et que donc, il me semble qu'on devrait, me semble-t-il, on devrait pouvoir se mettre d'accord sur le fait que l'oppression... c'est de contraindre une personne, homme ou femme, contre sa volonté. Que ça commence là. Et que donc, le risque, c'est que... Et que par contre, une position qui vise à dire le voile en tant que tel est un symbole sexiste, donc ça m'autorise, moi, à recourir à toutes les formes d'inquisition policière pour délivrer l'autre, ça me paraît être une erreur. Voilà ce que j'ai voulu dire. Mais sans contester qu'il y ait par ailleurs, dans le monde arabo-musulman, qui est dans la séquence historique, qui est le produit aussi d'une histoire que j'ai évoquée rapidement, il y a effectivement des combats à mener qui vous tiennent à cœur, et c'est très bien.
Et bien, puisque vous aimez les Iraniennes, vous en écouterez une attentivement qui exprime que le voile, c'est bien l'expression du wahhabisme. Chaban Javan.
Je ne sais pas si c'est la meilleure littérature. Hein. Oh. Franchement.
Oh.
Je ne sais pas si c'est la meilleure littérature.
Moi, je vais demander un petit peu pour dire les choses. Enfin, pas à ce point-là et tout, mais je veux bien qu'on prenne en compte le fait que, oui, si on veut, le voile, c'est quelque chose de sexiste, dans le fait où c'est imposé qu'aux femmes et pas aux hommes. Mais. Je vois pas ce que ça apporte en fait de venir le clamer et de venir poser comme ça d'un coup que le voile est sexiste. Parce qu'en fait ça culpabilise aussi les femmes qui se voilent et qui... Enfin je sais pas si tu vois ça comme une oppression mais qu'à la fois elles sont obligées de le porter ou peut-être qu'elles ont juste envie de le porter parce que ça fait partie d'une une identité culturelle aussi. Genre venir leur dire que c'est sexiste et venir dire que le voile comme ça est sexiste, c'est super culpabilisant pour les femmes aussi. Et en plus de ça, on est quand même dans une société qui est vachement raciste et islamophobe. Comme de poser ça comme ça, en fait, ça participe aussi à ces oppressions-là. Enfin, même si c'est important d'avoir une grille d'analyse féministe dessus, on peut pas non plus enlever le contexte raciste et enlever une grille d'analyse raciste.
Je sais pas si les propos phalliques ont besoin d'une nounou, parce que Kamel Daoud expliquerait très bien que l'islamophobie est la petite fille de l'islamisme, donc c'est un concept extrêmement fascisant. Donc on se prend les pieds dans le tapis par les éternelles mêmes questions. D'abord, c'est à monsieur que je réponds. Et les raisons de mettre ou ne pas le voile, elles sont multiples, comme les raisons pour une femme de vendre son viol ou pas par l'esclavage sexuel sont multiples. C'est pas ça que je soulève, et c'est pas une femme que je le dis. C'est à monsieur
en fait,
le sexiste.
Ils culpabilisent juste les femmes.
Ah non, du tout.
Non, de se faire violer.
Non, du tout. Les femmes, pays des pétrodollars nous usurent de les aider.
Peut-être.
On ne peut pas, on usure de les aider.
Peut-être. Ouais, vous pourrez.
Une question sur le livre.
Pour changer.
Y a-t-il une question qui porte sur le livre d'Ivan Segré?
Oui, moi je voulais revenir. Je parle fort. Je le vois fort. Justement, bon, je trouve les discussions parfois intéressantes et parfois ça dérive un peu, je comprends pas tout, mais bon. Mais justement, je crois, j'ai pas lu votre livre, mais ça s'intitule, je crois, laïcité, religion et capital. Et justement, moi, je m'interroge beaucoup justement sur sur la religion. Il a été parlé tout à l'heure de Benjamin qui disait que le capital était une religion. Et il y en a d'autres qui disent ça, mais on l'a dit du communisme aussi, hein, que c'était une religion. Et pour moi, le libéralisme aussi. Et j'avais lu l'historien. Israélien, Yuval Noah Harari, pour lui aussi, on parle d'idéologie, il dit, on parlait de religion, et il donnait justement comme définition de la religion, c'est un système de normes et de valeurs humaines qui sont fondées sur la croyance à un ordre surhumain. Il précisait bien, d'un ordre surhumain, pas surnaturel. Donc, pour moi, toutes les idéologies sont religieuses, et finalement, dans la laïcité, j'ai l'impression qu'une laïcité avec un État, une idéologie autoritaire, on n'a peut-être qu'une façon aussi de concevoir la laïcité un peu religieuse aussi. Et d'où ces dérives parfois sur le voile. Moi, j'ai ces positions-là aussi. Je crois qu'on va pas se libérer avec des débats. Le voile, est-ce que c'est sexiste ou pas? Je pense que on est tous soumis. Il y a vraiment une soumission au marché. D'ailleurs, à ce sujet, je cite souvent l'intellectuel Thomas Frank, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Le marché du droit divin. C'est vraiment le marché complète. On est en pleine pornographie, on est en plein délire consumérisme. C'est extrêmement criminel et on n'entend pas, à part peut-être aujourd'hui avec ce mouvement des Gilets jaunes, mais une rébellion vraiment qui aurait une conscience vraiment d'être vraiment sous la servitude. Il n'y a pas encore ça, même s'il y a des mouvements un peu partout dans le monde, tout ça. Donc effectivement, moi, pour moi, la religion, c'est central, c'est le libéralisme. Pour moi, voilà, je ne sais pas si... Après, vous réagissez, il n'y a pas de question dedans, mais c'est juste pour une réaction, peut-être.
C'est-à-dire, pour vous, la religion, c'est l'idéologie dominante, finalement, que vous appelez religion, j'ai l'impression.
Oui, c'est la religion de toutes les religions.
Mais si vous voulez, moi, j'essaye de dire quand même que il ne faut pas... comme ça, prendre une notion et en faire quelque chose de purement négatif. Mais je ne pense pas que la religion en tant que telle, on puisse dire que ça devienne un mot dans lequel on va mettre toutes les choses de l'ordre. Ce que vous appelez religion, au fond, ce sont des formes d'oppression. Mais en même temps, je ne pense pas que ce soit juste de dire que la religion en tant que telle est une forme d'oppression. C'est peut-être aussi une forme de libération. Par exemple, l'islam à son émergence est un mouvement, est un formidable poussée égalitaire au regard des féodalismes environnants. Donc à un moment donné, quelque chose, la religion peut être, par exemple, prenons un exemple contemporain, en Amérique du Sud. Vous savez qu'en Amérique du Sud, l'Église catholique est vraiment divisée. La division de l'Église catholique en Amérique du Sud, c'est très... Hein, entre le haut clergé qui est du côté des grands propriétaires et de la police, et puis les petits curés du côté de la théologie de la libération qui sont avec les paysans. Donc vous voyez que c'est divisé, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ce point-là. Après, bon, maintenant, effectivement, c'est la... à dire que l'idéologie dominante aujourd'hui, c'est le libéralisme.
Que vous disiez qu'il y a un antagonisme entre laïcité et religion qui crée une laïcité réactionnaire, notamment à l'école, et sur l'exemple du duty free qui serait un temple d'acceptation pacifiste, et Anna, tu disais que Benjamin disait
parler du capitalisme comme une religion, un dogme culpabilisant et sans issue.
Un culte. Sur le fait d'accord. C'est un culte et pas un dogme.
D'accord, oui. Et mais je me dis que le c'est pas il est pas culpabilisant s'il est plus profitable si ça s'il y a plus de profit à avoir l'air progressiste que et que ce pacifisme cette ce qui apparaît comme une laïcité progressiste dans ce duty free est pas motivé par un principe laïque mais par un principe de profit. Est-ce qu'il faut regarder les manifestations du capitalisme et ses effets ou ses motivations? Est-ce que
c'est pour ça que j'ai dit que dans la suite du texte se pose la question de la production. Et évidemment, il ne faut pas en rester là. Et se poser la question de comment ces produits arrivent dans ce marché du duty-free et qui a accès et qui n'a pas accès. Bon, donc là, c'est la suite du texte. Mais je maintiens tout de même. Je maintiens, oui, pourquoi pas, absolument. Même en termes, même dans la mesure où le moteur est la recherche d'un profit. Il peut y avoir une dimension progressiste lorsque ça fait reculer des formes plus réactionnaires de sociétés féodales qui sont la bourgeoisie révolutionnaire dit Marx regarde une société féodale qui est fondée sur la naissance qui immobilise. Alors, c'est une formule que j'emploie dans le bouquin que la naissance s'immobilise alors que l'argent circule et que l'avènement de la bourgeoisie dans l'histoire est une force d'évolution, de transformation, de mutation sociale, bien qu'elle soit animée par le profit. Ça n'est pas immédiatement disqualifiant. Les effets peuvent être progressistes. Ça le devient après lorsque la logique du profit va écraser les gens au lieu de les affranchir. J'ai répondu ?
Oui. C'est vrai que ça paraît un peu instable ou précaire de se.
Ça te paraît comment ?
Un peu instable ou un peu précaire de se satisfaire des faits positifs à un moment donné, mais.
Mais la vie est instable et précaire. Et la pensée aussi.
Ah, c'est une phrase de la boss du MEDEF. Hein. La vie est précaire, il faut que le travail aussi le soit.
Oui, mais elle a rajouté quelque chose que j'ai pas rajouté. C'est pas, hein, c'est parce que à partir de la vie est précaire, on peut avoir d'autres conclusions qu'il faut que le travail le soit. Et la formule du MEDEF, là où elle s'avère être une femme du MEDEF, c'est dans la suite, quand elle dit il faut que le travail le soit.
Mais collez une autre citation, vous devriez vous en sortir, je pense. Voilà.
Je voulais avoir un détail sur la réponse à la dernière question concernant vos influences sur l'écriture. Alors, vous avez parlé d'une première influence, la plus revisitée. Et puis, la deuxième, c'est ce rapport à une opposition ou un ennemi, quoi. Et en quoi, sur ce point, vous avez cité Marx et Engels, en quoi j'ai pas compris en quoi ça avait un rapport avec la citation, le recours important à la citation. Ouais, peut-être décrocher.
Non, c'est-à-dire que effectivement, il y a un recours à la citation qui est celui de la plurivocité, hein. Mais il y a aussi un recours à la citation lorsque vous déconstruisez une argumentation et vous en montrez le caractère, vous en montrez ses dysfonctionnements ou son côté retorse. Donc c'est aussi l'ennemi là, voilà. Donc, mais effectivement, c'est un autre registre de la citation cette fois.
Sur livre dormir.